Alléluia! Vous êtes là? Heureux d'avoir à connaître le nom de Jésus victorieux au-dessus de toute situation. Alors c'est encore un petit peu un temps de vacances et j'aimerais continuer ce matin sur le thème que j'ai commencé il y a 2 semaines. Avec ce titre, un voyage, une destinée. Il y a 2 semaines, je vous ai dit que je vous ai embarqué dans un voyage surprise qui était organisé par Ciel Voyage, une compagnie vraiment excellente, hein, service tout compris, hein, c'est super. Pourquoi ? Parce que j'aime considérer la vie comme un voyage. Et je crois que je suis pleinement convaincu que Dieu veut nous conduire dans ce voyage. Il désire nous amener dans un lieu de destinée. D'étape en étape, il veut nous faire grandir, nous transformer à son image et nous faire entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça, vous le savez, hein, vous connaissez ces choses-là. Mais c'est vrai, il a des œuvres, si quelqu'un ne le sait pas encore, il a des œuvres préparées pour toi. En avance, il désire te faire entrer là-dedans. On a regardé il y a 2 semaines au voyage d'Abraham. Un voyage qui a été ordonné par Dieu, parce que Dieu désirait bénir Abraham et sa famille. Et Dieu lui a demandé de tout quitter pour aller dans le pays qu'il lui montrerait, avec cette promesse de faire de lui une grande nation et de bénir sa postérité. Alors comme je l'ai dit, notre vie, notre route, elle est faite d'étapes, de saisons, des périodes de temps qui sont souvent nécessaires dans notre processus de croissance. Mais Dieu a en vue quelque chose de plus. Il veut vraiment nous conduire dans ce lieu de destinée. Et il y a des temps, peut-être, vous êtes dans un temps aujourd'hui qui peuvent sembler routiniers. Des temps où il se passe peut-être peu de choses. Mais c'est justement dans ces périodes, c'est un petit peu ça qu'on a vu avec Abraham, c'est dans ces périodes que nous devons garder cette foi, ce désir ardent d'aller plus loin. Et il a été dit en Romains 4, 18, à propos d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il a cru et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations selon ce qui avait été dit. » Donc il a dû croire à la promesse, il a dû persévérer. Même si parfois il avançait dans ce voyage sans voir grand-chose, il a dû persévérer dans la promesse de Dieu pour voir cette promesse s'accomplir. Le message principal que j'ai souhaité communiquer il y a 2 semaines, c'était « Mais ne reste pas là où tu es. Tiens-toi prêt. Sois prêt au changement. Tiens-toi prêt à ce que Dieu veut faire. Tiens-toi prêt à bouger. Le risque, c'est de faire de notre étape un lieu tellement confortable qu'on n'ait plus envie d'en sortir. Que notre étape soit finalement un lieu de satisfaction et qu'on n'aille pas plus loin. Mais Dieu a vraiment plus pour nous. La force des gars comme Abraham, c'était justement leur foi et leur persévérance sur le long terme. Mais c'était aussi leur obéissance. Et quand Dieu disait quelque chose, quand Dieu a dit à Abraham d'aller, il est allé. Et c'est ça que Dieu aimerait faire aussi en nous, qu'alors qu'il nous appelle à sortir, qu'il nous appelle à bouger, que nous puissions répondre oui. Je repense aussi à Noé, hein, vu qu'on était dans la Genèse. Ben voilà, il lui demande à Noé de construire un bateau en plein désert, une arche. Ben, il a dit oui, il est allé, il l'a fait, il a accompli ce que Dieu lui a demandé. Alors, et nous, sommes-nous de ce tremplin, de ces hommes-là, de ces femmes de foi? Sommes-nous prêts à bouger, à changer, à entreprendre ce que Dieu nous demandera? J'ai une question un peu bizarre pour vous ce matin. Avez-vous déjà mangé du homard? Bien sûr, regarde ça. Alors, on n'est pas tous de la même classe sociale, tu vois. Il y a les gens pour qui c'est normal. Ah, bien sûr, le homard, c'est tous les dimanches midi en entrée, hein. Bon. Alors, moi, en Suisse, je n'avais jamais mangé, mais j'en ai mangé au Québec. C'est véridique. Vous me voyez là au Québec avec mes homards dans la main. Voilà, parce qu'au Québec, ils en pêchent, hein. Avec le Saint-Laurent, là, depuis l'Atlantique, là, ils ont beaucoup de homards. Ils ont une bonne industrie du homard. Il est très bon. Mais ce que j'ai appris On va enlever l'image, pourtant vous allez rester rire là-dessus. Ce que j'ai appris récemment, c'est que le homard doit quitter sa carapace pour grandir. Sinon, cette carapace deviendrait pour lui une prison ou un cercueil. Donc il y a un moment dans sa phase de croissance, il doit sortir de la carapace jusqu'à ce qu'une nouvelle carapace vienne et grandisse. Donc il doit se séparer finalement de sa protection. Puis c'est le moment où il est le plus, évidemment, le plus vulnérable. Hein. Il suffit d'un courant marin pour que un autre poisson se dit c'est bon, et puis cette fois-là, c'est pas croquant, hein, c'est agréable dans la bouche. Hein. Y a pas la... Nous, on aimerait bien que les homards, on puisse les pêcher sans carapace. Hein. C'est ça le plus dur, c'est de les décortiquer. Donc voilà, il y a un moment donné où il est vulnérable. Et je crois que cette image, elle est intéressante parce que se mettre en route, quitter nos étapes routinières ou confortables, obéir à ce que Dieu nous demande, c'est accepter de laisser sa carapace, hein, de quitter sa carapace pour pouvoir grandir. C'est accepter le changement, c'est prendre des risques en quittant nos sécurités pour aller plus loin. Puis c'était toute cette idée de quitter la maison du père, hein, pour Abraham. Il devait quitter la maison de ses parents. Puis on a parlé de ça aussi, entre couper peut-être des liens générationnels, des choses qui n'étaient pas justes, des choses qui étaient malsaines, mais aussi prendre simplement distance pour aller plus loin. On a besoin de quitter quelque chose pour se laisser transformer par Dieu, entrer dans le plan de Dieu. Et mon appel en tant que pasteur, c'est non seulement de prendre soin de vous, parce que je vous aime, et puis votre, pour moi, le plan spirituel pour votre vie, votre bien-être spirituel est important, mais c'est aussi celui de vous préparer. Et que ce soit individuellement ou collectivement, j'ai ce cœur de vous préparer au retour de Jésus, mais aussi de vous préparer afin que vous soyez prêts dans les starting blocks pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre et vous mettre en marche à ce que Dieu va vous montrer aujourd'hui. Hein, puis c'est aujourd'hui, c'est pas... Chaque étape de vie, on est en route, d'accord ? Donc c'est pour aujourd'hui. C'est pas juste on attend que quelque chose se passe pour se mettre en route. Non, et mon désir c'est ça, c'est que vous soyez prêts, chaque jour, à entrer dans les plans de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais prendre l'exemple dans le Nouveau Testament d'un homme qui a beaucoup voyagé, et puis là, en disant ça, j'ai déjà tout dit, un homme que vous connaissez bien, c'est l'apôtre Paul. Et lui aussi, il a su obéir avec foi, il a pris des risques pour accomplir le projet de Dieu. Et c'est tellement génial, je vous encourage à relire hein, régulièrement les Actes des Apôtres. Je crois que ça garde aussi notre foi, notre passion pour l'Évangile. Et c'est tellement beau de voir comment Paul est guidé dans ses différents voyages. Alors ce matin, il y a trois aspects de la vie de Paul que j'aimerais relever, qui me semblent pertinents pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est la capacité de Paul à écouter la direction de l'Esprit. C'est ce qu'on va voir dans ses différents voyages. C'est sa capacité de Paul aussi à transformer un imprévu en une opportunité divine. Puis troisièmement, c'est la capacité de Paul à s'entourer. Ça va, vous êtes là ? Donc, dans tous ses voyages, Paul, il a écouté la direction de l'Esprit, il était conduit par l'Esprit. Il ne va pas aller n'importe où. Lorsque Dieu lui demande de bouger, il y a une direction qui est là. Et puis, à chaque moment, il cherche la direction de Dieu, la volonté de Dieu. Il écoute la voix de Dieu. Ce qu'il entend, ça se fait de différentes manières. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous le dit. Alors, que je parle que Dieu nous parle, que je dis que Dieu nous donne des directions, peut-être il y a certains dans cette salle, ce n'est pas commun pour vous. Peut-être vous êtes habitués, d'autres... Pour certains, on dit « Ah bon, Dieu parle ». Oui, Dieu parle. Et peut-être les exemples qu'on va prendre ce matin vont t'aider à comprendre comment Dieu parle. Mais ce qui est génial, c'est que Dieu nous a donné son esprit. Donc si tu as fait alliance avec Jésus, si tu acceptes Jésus, ben, son esprit vient. Et son esprit parle à notre esprit. Parfois, c'est extérieur. Il y a des signes, des choses extérieures. Parfois, c'est simplement des convictions intérieures, comme on le verra aussi. Donc je crois qu'il y aura plusieurs pistes qui vont t'aider à comprendre cela. Mais je peux vous assurer d'une chose, Dieu parle, il dirige nos pas. Alors on va prendre un premier exemple, je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc Paul part une première fois d'Antioche, accompagné de Barnabas, un juif qui était originaire de Chypre. Et quelques mots sur Antioche rapidement, parce qu'Antioche revient souvent dans l'histoire des Actes, dans l'histoire de Paul. Antioche, c'était la troisième ville de l'Empire romain, donc c'était une ville assez importante au niveau de sa taille. C'est une ville très cosmopolite, donc il y avait des gens un peu de partout, et puis il y avait très peu de culture juive. Et puis, suite au martyre d'Étienne, à Jérusalem, il y a beaucoup de disciples, hein, de nouveaux chrétiens, de gens qui ont connu vraiment, qui ont reconnu Jésus comme le Messie, qui ont décidé de partir, hein, parce que Jérusalem devenait dangereux. Étienne était mort martyr. Il avait été mis à mort à cause de sa foi. Donc les chrétiens commencent à partir et plusieurs vont aller à Antioche. Et Antioche va rapidement devenir le centre du christianisme pour les non-juifs. Et puis c'est d'ailleurs là que les disciples de Christ seront appelés pour la première fois chrétiens. Hein, c'est à Antioche qu'on va dire de ces disciples de Christ, dire c'est des chrétiens, c'est des petits Christ, ils ressemblent à Jésus, il y a quelque chose ici. Et voilà que dans cette ville, il y a un réveil, il y a des conversions. Et Paul va venir dans un premier temps, c'est Barnabas qui va aller le chercher à Tarse, puis lui dire « Mais viens Paul, on a besoin de toi ». Puis Paul va venir enseigner l'église à Antioche. Et l'église va grandir, l'église va devenir mature au point qu'ils sont capables de faire une collecte pour encourager l'église de Jérusalem. Et puis c'est à ce moment-là qu'ils vont aussi envoyer Paul et Barnabas en mission. Alors on va juste regarder ça en Actes chapitre 13, les versets 2 à 4. Ça s'affiche à l'écran, c'est merveilleux. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Barnabas et Saul, donc Saul c'est Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, se rendirent à Séleucie, d'où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Amen. Donc, ce texte nous dit simplement que dans un temps de culte, dans un temps d'adoration, de jeûne, de prière, l'Esprit a parlé à plusieurs personnes, ou c'est pas vraiment précisé, ou peut-être un homme. Au verset 1 du même chapitre, il est dit que dans cette église, il y a des ministères prophétiques, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Donc peut-être il a parlé à une personne, mais à plusieurs aussi. Et dans tous les cas, la parole de Dieu a été reçue et accueillie par la communauté, qui vont alors imposer les mains et envoyer Paul et Barnabas. Donc la direction de l'Esprit est claire ici. Dieu parle au travers des ministères, de la communauté, et Paul et Barnabas ont pris pour eux, ils sont envoyés dans la mission. C'est vraiment le premier envoi de l'Église finalement. Donc Dieu parle au travers des ministères et de la communauté. Il y a des moments dans notre voyage où on va peut-être être propulsé, envoyé par d'autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont voir en nous un appel pour une mission particulière. Puis ce n'est pas quelque chose d'unilatéral. Hein, Paul, il était partie prenante. Paul, il était certainement pleinement convaincu lui-même d'être appelé par Dieu pour faire l'œuvre. Mais on n'est pas envoyé par une seule personne, mais par une communauté. Et sur notre chemin, le Saint-Esprit peut aussi nous parler par l'intermédiaire d'autres personnes. Finalement, chrétiens ou pas, hein, parfois, peut-être vous avez fait l'expérience, Dieu peut nous parler de la bouche de personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais d'un coup, il y a une parole qui va venir nous percuter. Une parole de révélation pour nous. Une parole qui peut sembler anodine pour les autres, mais qui résonne fort dans notre cœur, d'une manière particulière. Puis là, on sait que Dieu a voulu nous dire quelque chose. On sait que Dieu a voulu nous donner une direction claire. Dieu veut parler de cette manière-là. Puis je vous encourage, si ça vous est arrivé, à prendre cette parole, puis à la partager aussi avec quelqu'un, pour dire, mais est-ce qu'on peut discerner ensemble? Moi, je reçois ça, j'ai entendu ça, puis qu'est-ce que j'en fais maintenant? Est-ce qu'on peut prier ensemble là-dessus? C'est important. Donc Dieu parle au travers des personnes, la communauté, des hommes et des femmes. Et puis, un deuxième exemple, dans son parcours, dans ce deuxième voyage missionnel, Paul va être séparé de Barnabas. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, il y a encore beaucoup de débats sur cette séparation entre Paul et Barnabas. Mais Paul va ensuite rencontrer Timothée, qui va prendre avec. Puis en acte 16, les versets 6 et 7, acte 16, 6 et 7, il est dit, ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Alors on ne sait pas exactement comment, mais on peut saisir ici que Paul et Timothée tombent sur des portes fermées. Un événement, une circonstance va leur faire comprendre que ce n'est pas le chemin à suivre. Et j'aime bien ces exemples parce que on pense des fois que Paul a eu un itinéraire tout droit, sans encombre, qu'il savait toujours où aller. Et puis là, on voit que non, il y a des portes fermées sur son chemin. Il a un petit peu avancé à tâtons. Et puis, soudainement, suite à ça, Dieu va lui parler par une vision. Une vision, c'est quoi? C'est comme des images successives qui prennent vie dans notre esprit. Donc là, Paul, il dort, finalement c'est un rêve, où il voit des choses se passer, et il va voir un homme, un Macédonien, lui dire « Secours-nous !» Donc c'est pendant la nuit, voilà, il y a un rêve, une vision, des images qui prennent place, et puis il voit un homme qui lui dit « Secours-nous !» Et pour Paul, ça va être la direction, ça va être le signe que Dieu les appelle à partir dans la province macédonienne, dans laquelle se situe la ville de Philippe, où il aura aussi un ministère influent. Donc Dieu parle deuxièmement à Paul par des portes fermées sur sa route et par une vision. Et dans notre propre voyage, des portes qui se ferment devant nous sont aussi des réponses de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Un refus pour un emploi ou un appartement peut être vu comme une porte que Dieu ferme avant d'en ouvrir une autre. Bien sûr, ça dépend si on a remis les choses à Dieu. Si vraiment on s'est confié en Dieu, si on se confie en Dieu dans notre recherche, on va pouvoir dire oui, je crois que c'est Dieu qui est en train de diriger les choses. C'est clair que si on y va comme ça, c'est autre chose. Mais voilà, je crois vraiment qu'une porte fermée peut être une réponse de Dieu. Et ce n'est pas faux de continuer à chercher. Ce n'est pas faux, parfois on tâtonne un petit peu. Ce n'est pas faux de mettre plusieurs dossiers parce qu'on cherche un job ou parce qu'on cherche un appartement. Bien sûr, Dieu peut nous donner quelque chose de précis en disant « c'est là qu'il faut que tu postules ». Mais ce n'est pas faux de tâtonner en ayant cette pleine confiance que Dieu va fermer la porte qui doit être fermée et ouvrir la porte qui doit être ouverte. Un échec dans une formation peut être aussi une porte qui se ferme pour laisser à Dieu la possibilité de nous orienter au bon endroit. Ça peut être aussi simplement une petite épreuve pour nous faire grandir, qui va nous pousser à travailler un peu plus dur, à aller jusqu'au bout. Moi, des fois, j'aurais eu tendance à « finalement, j'ai loupé mon année. Bon, je laisse tomber. » Il faut croire que le Saint-Esprit attend autre chose de moi. Il y a autre chose. Non, si on n'a pas travaillé, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre, veut nous amener plus loin. Il ne faut pas baisser les bras au moindre échec et puis dire à chaque fois « il faut croire que ce n'était pas pour moi ». Ce n'est pas ça que je veux dire ce matin. Mais il y a des réalités où voilà, Dieu peut fermer une porte. Puis c'est une réponse de Dieu. J'aimerais prendre encore un dernier exemple tiré du verset que vous avez eu sur votre feuillet. Nous sommes cette fois à la fin du troisième voyage de Paul. Et Paul va dire ceci, acte 20-22, « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. » Et ce verset m'a toujours beaucoup parlé, parce qu'on voit clairement l'attachement de Paul à l'Esprit de Dieu et l'obéissance, et son obéissance. Puis là, il utilise un terme très fort, « lié par l'Esprit ». Finalement, c'est enchaîné, c'est prisonnier. Il est tellement proche de la volonté de Dieu que c'est comme s'il est enchaîné à ce que l'Esprit lui demande. Il doit y aller, c'est clairement la volonté de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Donc Dieu lui parle en mettant dans son cœur une ferme conviction. Alors, il y a différents buts dans ce voyage, je ne rentre pas vraiment dans les détails, mais il y a des buts humains. Paul, il a une raison d'aller à Jérusalem, il veut lui-même amener l'offrande des églises d'Asie à Jérusalem pour que ce soit un signe clair d'unité. Et puis, le texte nous dit aussi que Paul aimerait être de retour à Jérusalem pour la Pentecôte. Donc, on voit que Paul a aussi une intention, il veut y aller, mais le Saint-Esprit veut le conduire. Le Saint-Esprit voit plus loin que Paul dans cette direction de Jérusalem. Et puis du coup, Paul va recevoir de nombreux avertissements. Et c'est un petit peu étonnant quand on lit le texte, on voit que Paul est lié par l'Esprit, il doit y aller. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 20, verset 23, Paul va le dire lui-même, il dit « Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » Et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc en Actes 21, verset 4, Paul se retrouve, il est déjà en chemin vers Jérusalem, Paul se retrouve à Tyr, ils font escale avec le bateau. Et puis voilà qu'il est dit, poussé par l'esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc ils se retrouvent là, ils font une escale, ils rencontrent des disciples de Jésus, des gens qui croient. Et puis voilà que poussé par l'esprit, ils lui disent, mais va pas à Jérusalem. On se dit, mais c'est bizarre, à la fois il est lié par l'esprit qu'il faut y aller, puis en même temps il y a des gens qui lui disent de ne pas y aller. Et puis un petit peu plus loin, à Césarée, il y a un prophète du nom d'Agabus, certainement vous avez déjà entendu ce nom, Agabus, qui justement de manière imagée, il va prendre la ceinture de Paul, Paul est là, il va prendre sa ceinture, il va se lier les mains, se lier les pieds, et puis il va dire ceci, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. Alors Paul, en entendant tout ça, il aurait pu renoncer. Il aurait pu dire, bon, ben, c'est bon, je crois que j'ai compris là. Au vu de ce qui m'attend, on va prendre une autre direction. Mais non, il y a une conviction qui est ferme. Il y a un attachement à ce que l'Esprit veut. Et malgré les avertissements, il va continuer. Et la manière dont l'auteur, donc Luc, c'est Luc l'évangéliste qui écrit les actes, il fait ressortir cette ferme conviction, ça me fait un petit peu penser à Jésus en route vers Jérusalem, où Luc aussi dans l'évangile va vraiment dire clairement qu'à un moment donné c'est le temps et Jésus va se tourner vers Jérusalem, il va vers front à Jérusalem, il va même durcir son front, il va, avec une ferme conviction il va aller à Jérusalem parce que c'est le temps. Et Jésus sait très bien ce qu'il attend, il sait qu'il va faire face à la mort. Et là, un petit peu de la même manière, on voit un Paul qui se tourne vers Jérusalem, qui dit « Ok, c'est pas grave, je vais faire face. Je vais, avec ma confiance en Dieu, avec la foi, je vais entrer dans ce que l'Esprit me demande. » Et je crois pleinement que le Saint-Esprit peut, de la même manière, pour nous, déposer des convictions fortes, afin que rien ne vienne nous détourner de son projet. Et des fois, les gens autour sont assez forts pour nous détourner. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Parfois, on reçoit quelque chose de Dieu, mais on a tellement finalement des gens qui ne vont pas nous encourager qu'on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Mais quand Dieu nous parle, quand Dieu met une conviction, alors je vous encourage à aller au bout des choses. Et d'ailleurs, dans cet exemple, une petite parenthèse, mais c'est vrai que là, on voit ces hommes qui, poussés par l'Esprit, vont dire de ne pas partir. Mais moi, je crois clairement que poussé par l'Esprit, que l'Esprit veut dire à Paul, veut avertir Paul. Et c'est ça qui se passe dans ce texte. L'Esprit de Dieu veut avertir Paul. Mais l'avertissement ne veut pas dire qu'il ne doit pas y aller. Parfois, un avertissement, nous, on se dit, s'il nous avertit, c'est qu'il ne faut pas bouger. Non, ce n'est pas forcément ça. Et lorsqu'on donne une parole prophétique, une pensée de Dieu, je vous encourage à vous tenir à ce que Dieu dit. Et pas à interpréter la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait peut-être penser que là, les disciples ont été un petit peu loin en disant à Paul de ne pas y aller. Mais l'Esprit de Dieu voulait avertir Paul. Mais il ne lui a pas dit de ne pas y aller. Donc on peut penser que les disciples avaient peut-être un petit peu eux-mêmes de mal, puis ils ont interprété eux-mêmes en disant « vas-y pas, ça va être dangereux ». Mais ils aiment Paul, ils veulent forcément. Mais la pensée de Dieu était d'avertir Paul seulement. Peut-être que vous entendez lié par l'esprit, enchaîné, puis vous dites, moi ça me fait peur ça. Enchaîné par l'esprit quoi. Est-ce que j'ai envie d'être enchaîné par l'esprit? Ouh là 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 là. J'aimerais aussi vous rappeler que Dieu nous laisse libres dans nos choix. Il ne s'impose pas. Mais toujours il parle, il indique la direction, il donne la route si on lui le demande. Et puis parfois il y a plusieurs routes qui peuvent être possibles pour une même destination. Souvent, en tant que chrétien, on a l'impression qu'il y a une seule route. Alors oui, il y a le seul chemin, c'est Jésus qui mène au Père, ça c'est sûr. Mais dans votre vie de tous les jours, il y a plusieurs choix qui peuvent être possibles. Et des fois, on se dit, non, alors il y a une chose qui est bonne, puis alors tout le reste, c'est hyper mauvais. Non, je crois que parfois, Dieu peut ouvrir plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Il peut même nous donner le choix. Il y a aussi une route qu'il ne faut pas suivre, ça je le crois aussi. C'est bon, des fois, il y a des gens qui vont attendre, dire, tant que je n'ai pas vraiment l'éclairage sur la seule chose, je ne bouge pas. Non, parfois, Dieu ne donne pas une direction hyper précise, Parce que tu as le choix. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. C'est aussi bon de le savoir. Mais il y a aussi ces moments de Dieu, ces temps de Dieu, ces kairos divins, où, attaché à l'esprit, on est appelé à œuvrer dans des circonstances précises, dans des lieux précis, dans des situations peut-être qu'on n'a pas choisi. Et là, on est juste appelé à obéir. On est juste appelé à dire oui. Même si des gens essaient de nous arrêter. Dans tous les cas, je prie pour que, au moment où Dieu, comme Paul, qu'au moment de Dieu, nous puissions nous mettre en route avec cette même détermination, cette foi en un Dieu plus puissant que les vents contraires. Donc, par différentes manières, Dieu va nous guider. Dieu parle, il parle à Paul. Il va le faire dans nos différentes étapes de vie. Et je veux t'encourager ce matin à garder ou à grandir dans l'écoute de Dieu. Il ne veut pas te parler uniquement dans les moments cruciaux de ta vie, mais chaque matin, il veut en orienter les détails. Croyez-le, vivez-le. Deuxième aspect que j'aimerais donc relever au travers de l'histoire de Paul, c'est cette capacité à faire d'un imprévu une opportunité. Mes deux points suivants seront plus courts que le premier, je vous rassure, je sais que vous avez chaud, moi aussi. Capacité de Paul à transformer un imprévu en une opportunité divine. Lorsque récemment nous sommes partis en Inde avec une petite équipe, on avait reçu un programme super détaillé du voyage. On savait exactement quel jour on allait être dans quelle ville, quel groupe on allait rencontrer, qu'est-ce qu'on allait faire. C'était bien organisé, comme les Suisses aiment. C'est tellement bon. Mais lui, Paul, comme on l'a dit, conduit par l'Esprit, il allait là où les portes s'ouvraient afin de pouvoir annoncer l'Évangile. Et à plusieurs reprises, on voit qu'il se passe quelque chose alors que ce n'était pas vraiment prévu, ce n'était pas l'intention première. Par exemple, Paul se retrouve à Athènes et puis il attend Timothée et Silas. Ils ont fait la mission ailleurs, lui est déjà à Athènes et puis il attend d'être rejoint. Et puis c'est là qu'il va faire ce discours à l'aéropage qui va commencer en disant en actes 17, 22, 23 « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Il est magnifique ce discours. Mais je vous dis ça simplement pour dire que Paul n'a pas attendu les bras ballants une opportunité pour éventuellement annoncer l'Évangile, celui en qui il croit. Mais non, tout est opportunité pour Paul. Il aurait pu siroter un sirop sur une terrasse en disant « Bon, on va essayer d'attendre Timothée et Silas, puis quand ils seront là, on va se mettre au boulot, parce que franchement, là, je vais profiter un petit peu du bon soleil d'Athènes. » Et puis, non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été dans les synagogues. Il a parlé, il est venu entrer en relation sur les places publiques. Il a visité la ville. Il a essayé de ressentir l'atmosphère spirituelle de cette ville. Et ensuite, il a pu rejoindre ses auditeurs avec pertinence, en disant, mais grâce à ce qu'il a vu, grâce à ce qu'il a saisi, il a pu amener l'Évangile. Et le texte nous dit que plusieurs vont se convertir après ce discours-là, dont la magnifique Damaris. J'imagine forcément Damaris super belle. Oui, acte 17 nous parle de Damaris. Voilà. Oui, j'ai épousé une femme avec un prénom biblique, autrement. C'était la condition, la seule condition sur... Non. Condition sine qua non. Mais on peut aussi penser à l'histoire de Lydie, par exemple. Lydie aussi, ma belle-sœur, femme merveilleuse. Voilà. Paul et là, ses collaborateurs, ils arrivent dans la ville de Philippe. C'est le jour du sabbat. Et puis ils disent, bon, on va aller vers la rivière, puis on va voir si éventuellement il y a un lieu de prière. Il y a des gens qui prient. Et puis ils ne s'attendaient certainement pas à ça, mais ils trouvent un petit groupe de femmes. Des femmes qui, oui, étaient en recherche spirituelle, qui étaient en quête spirituelle. Et puis, ça ne va pas être un problème pour eux, un blocage, parce que normalement, un homme ne va pas forcément au contact direct dans la culture juive avec une femme. Mais là, Paul, il n'est pas surpris, il ne se tient pas à l'écart, parce que c'est des femmes. Non, il s'assoit avec elles, puis il va leur exposer l'évangile. Et là, touchée aussi, Lydie va se convertir. Lydie va être baptisée avec sa famille. Et puis elle deviendra aussi un soutien dans le ministère de Paul. Puis encore, on peut penser au voyage de Paul, justement, de Jérusalem à Rome. Là, c'est le dernier moment, hein. Donc effectivement, il est rentré à Jérusalem, il s'est fait effectivement lier les pieds, les mains, et puis là, il va être envoyé à Rome parce qu'il a fait appel à l'empereur. Donc il est escorté sur un bateau, finalement un peu un bateau avec des prisonniers. Et puis, voilà que dans des circonstances très difficiles, il va y avoir une pleine tempête, vous connaissez 14 jours je crois, de tempête sur ce bateau, ils croient ils vont tous y passer, ils lancent la cargaison par-dessus bord, c'est vraiment la catastrophe. Mais là, Paul, hein, des circonstances complètement imprévues, Paul sera comme Jésus sur ce bateau, il sera l'homme sage qui va donner des conseils avisés, qui va encourager, et plusieurs fois ça revient dans le texte, il encouragea les hommes, les hommes du bateau, l'équipage. Et puis il va leur transmettre une parole d'espoir reçue de Dieu. Hein, il va leur donner l'assurance qu'aucun d'eux ne perdra la vie. Donc dans ces moments de tempête, il rassure les gens, il encourage, il arrive encore à recevoir une parole de Dieu qui va leur communiquer. Et ils vont faire naufrage, vous connaissez, sur l'île de Malte. Ils vont rester 3 mois. Hein, il y a pire comme île, mais je pense qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Hein, donc voilà, ils se trouvent là sur l'île de Malte. Et puis il va pouvoir prier pour les malades. Le texte nous dit que tous les malades de l'île vont venir vers Paul et il va prier pour eux et ils seront guéris. Waouh ! Il y aurait certainement encore un tas d'autres exemples, mais je veux simplement souligner que Dieu nous conduit chaque jour un peu plus dans notre destinée, mais on y entre vraiment alors que nous transformons nos circonstances de vie en opportunités pour servir Christ et pour grandir. La vie de Paul est un voyage et à chaque moment, à chaque saison, à chaque changement, il était dans sa destinée. Il était là où Dieu le voulait, à faire ce pour quoi il était appelé. Paul faisait la différence partout où il passait, selon le modèle de Jésus, comme Jésus. On pourrait penser parfois que le lieu de notre destinée, c'est le paradis, c'est l'éternité avec Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que ma destinée, c'est être là, aujourd'hui, au centre de la volonté de Dieu. C'est avoir notre calendrier aligné au sien. Notre volonté alignée à la sienne. Être celui qu'il veut que nous soyons. Faisons le pourquoi il nous a créés. C'est ça, entrer dans sa destinée. C'est le moment où on comprend ce que Dieu attend de nous, afin que nos imprévus deviennent des opportunités divines. Dans mon quotidien, je pose régulièrement 2 questions au Saint-Esprit. La première, c'est « Que veux-tu que j'apprenne ?» Dans des circonstances imprévues, je lui pose souvent cette question, mais « Tu veux que j'apprenne quoi maintenant ? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par rapport à ces circonstances ?» Et je vous assure que ça m'amène plus loin. Ça m'amène dans ma destinée. Et même dans mon... Voilà, souvent je me lève, je dis, mais c'est quoi le programme du jour ? C'est quoi que tu désires me faire comprendre aujourd'hui ? Puis il y a une deuxième question que je lui pose souvent, c'est comment puis-je te servir ? Si je me retrouve, par exemple, d'une manière imprévue, bon, maintenant c'est plus trop imprévu, dans une file de 8 minutes à la poste en attendant mon numéro, hein, qu'est-ce que je peux faire ? Comment puis-je t'aider ? Comment puis-je servir ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Faire de ce moment une opportunité pour grandir, mais pour servir, une opportunité pour entrer dans ma destinée. Parce que peut-être dans ces files, il y a quelqu'un qui a juste envie de discuter, partager, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin d'un sourire, d'un encouragement. Et même si c'est des choses peut-être plus prévues, hein, une séance de travail, un groupe dans lequel vous êtes habitué à évoluer, vous pouvez vous poser cette question à Dieu, mais qu'attends-tu de moi ? Peut-être c'est la xème fois que vous vous retrouvez dans ce même comité, mais qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ? Comment je peux faire la différence pour toi dans ce lieu. Et c'est là vraiment que le voyage devient passionnant. Hein, puis on voit que Dieu nous utilise. Et puis, en fait, Dieu ouvre des portes, petit à petit. Des portes qui peuvent être relationnelles, des portes aussi qui sont intérieures, parce que ça bouge, ça nous fait grandir, ça nous fait bouger. On découvre des choses même en nous-mêmes que Dieu a déposées puis qu'on n'était pas conscient. On rentre dans notre destinée. Donc je vous encourage à essayer. Changez vos imprévus en opportunité. Amen, c'est un bon slogan, hein? Changez vos imprévus en opportunité. Et puis, dernière chose, avant de terminer, et là je serai vraiment assez court, hein, je dis, parce qu'on l'a déjà vu un petit peu, c'est la capacité de Paul à s'entourer. Paul était conduit par l'Esprit, on l'a vu, il était reconnu dans son ministère apostolique, donc on le reconnaissait comme un apôtre, comme quelqu'un ayant une autorité spirituelle, mais cependant, il n'était pas seul. Alors évidemment, il a pris peut-être des coups plus que d'autres. Il portait des choses peut-être d'une manière plus forte que d'autres. Mais autour de lui, il avait des collaborateurs, il avait une équipe, des personnes qui étaient avec lui. On peut citer quelques noms, hein, Barnabé, Marc, Silas, Timothée, Tite, Luc. Bon voilà, je ne vais pas tous les faire pour les lire, hein, parce qu'il y a des noms Tichique, Aristarque. Et puis aussi, bien sûr, des femmes, justement, Damaris, Lydie, Priscille, ma sœur, magnifique, hein, beau prénom aussi, Phébé, Marie, Tiphaine. Et puis mon préféré, c'est Tryphose, hein, parce qu'il a les doigts dans la prise, il était toujours connecté, Tryphase, hein, non, Tryphose. Niphée, Evody et Sinché, voilà. Je ne sais pas comment le prononcer juste. Mais voilà, il y avait du monde, puis ça, ce n'est pas exhaustif, cette liste n'est de loin pas exhaustive, mais il y a une belle équipe qui est là. Et dans les textes, si vous parcourez les textes de Paul, on voit qu'il y fait souvent référence. Il a des marques d'affection pour cette équipe. Et puis, il parle d'eux, il se soucie d'eux. Hein, on voit l'amour que Paul a pour cette équipe. Mais il est bien entouré, il a des compagnons d'œuvre. Et puis, comme je l'ai dit au début, il avait aussi ce port d'envoi ou ce port d'attache, l'église d'Antioche. Et c'était pour lui un soutien dans la prière, une couverture spirituelle vraiment importante. Alors, nos missionnaires ici le vivent aussi. On pense peut-être à Fanny ou à Raël. On a Gaston aussi qui est avec nous, mais Raël aussi en Afrique, etc. Chaque fois qu'ils reviennent en Suisse, qu'elles reviennent en Suisse, elles prennent plaisir à revenir dans leur famille spirituelle pour raconter ce qu'elles vivent, pour être encouragées, pour retrouver leurs amis. On a Gabriel aussi qui va repartir là, qui est là un petit moment. Hein, on ne sait jamais quand il est là ou pas là, justement, parce que d'un coup, il est là, il n'est pas là, il est là. Il est pas... Donc, il va repartir en Argentine. Peut-être tu pourras nous saluer encore dimanche prochain. Hein. Mais voilà, ils reviennent un petit peu au port d'attache. Et c'est important. Mais nous aussi, dans notre voyage, on a besoin d'être entourés. Et je crois que c'est aussi le rôle de l'église locale. Je ne suis pas tout seul. J'ai des frères, des sœurs avec qui partager, avec qui œuvrer, avec qui discerner la volonté de Dieu. Et c'est aussi eux qui peuvent peut-être le mieux reconnaître mes dons et mes talents, m'envoyer là où Dieu veut me placer. Pas besoin que ce soit à l'autre bout du monde, hein, je parle juste dans ton lieu de vie, dans ta place de travail. Est-ce qu'on le fait vraiment? Mais je vous encourage à le faire. Peut-être à nous envoyer les uns les autres. Toi, tu vois, tu travailles là, mais on veut te bénir, puis on veut t'envoyer parce qu'on croit que Dieu t'appelle là à œuvrer. Mais pour tous ceux qui œuvrent aussi dans un ministère particulier en dehors de ce lieu, moi je prie aussi que vous puissiez tisser des liens forts ici avec les gens de cette communauté pour que vous soyez vraiment soutenus dans votre ministère. Donc je vous encourage à ne pas rester seul. Peut-être trouver un partenaire de prière, trouver un groupe de maison. On a besoin les uns les autres dans notre voyage. Hein, j'en suis pleinement convaincu. J'ai moi-même des personnes que je vois assez régulièrement, qui sont des fois pas de l'église, hein, parce que pour un pasteur, c'est des fois pas facile de rencontrer, puis d'avoir un vis-à-vis avec des gens de l'église. Je me dis, bon, alors tu sais, il y a ça qui se passe, c'est un peu difficile pour moi. Alors j'ai des personnes aussi que je vois régulièrement, avec qui je peux discuter. Et puis ça me fait tellement de bien de pouvoir prier, d'être encouragé dans l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Donc je termine simplement en vous rappelant ces trois encouragements ce matin. Un encouragement à écouter la voix de Dieu, un encouragement à vivre chaque situation comme une opportunité divine, à ne pas subir le voyage, hein, mais à le vivre vraiment, à entrer dans notre destinée, en cherchant la volonté de Dieu. Puis un encouragement à être entouré, à ne pas rester seul le long du trajet, à vraiment être couvert spirituellement par une église qui est bénissante, aimante, à trouver une personne pour partager, prier régulièrement. Amen. Alors je vous invite à la prière et j'aimerais voilà, vous savez toute mon affection que j'ai pour vous et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce chemin ouvert.